Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes, en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Jacqueline Voraz sur IDFM Radio et à la technique Francky. Bonjour Francky. Ensemble pour 90 minutes jusqu'à 11h. Merci à vous tous qui avez choisi de nous suivre sur notre antenne. Chambre de commerce et d'industrie du Val-d'Oise, Cercle Beaumontois du patrimoine et innovation sociale et environnementale, ce matin, vendredi 18 avril 2025, explorons les dynamiques économiques et sociales du Val-d'Oise en présence d'acteurs clés qui façonnent l'avenir de notre territoire. Bonjour Pierre Cuchely.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Pierre, vous le savez, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous accueillir.
C'est un plaisir partagé.
Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France, président de LSI-SARL, spécialisé en gestion intelligente de fluides, président délégué du comité d'échange franco-japonais, président de l'AGIR, Association pour le développement des ressources de l'enseignement supérieur, président de l'ANIDEF, Association nationale et internationale pour le développement de l'enseignement et de la formation. Bon, je ne vais pas le dire à chaque fois, hein, je le dis une fois à tout, mais voilà, c'est pas mal.
Merci.
Avec nous ce matin pour nous rappeler, bien sûr, le rôle essentiel d'une chambre de commerce et d'industrie, tous les défis qui s'y rattachent et les actions et événements mis en place pour soutenir les entreprises et leurs dirigeants. À vos côtés, Jérémy David. Bonjour Jérémy.
Bonjour Jacqueline.
Secrétaire du Cercle Beaumontois du patrimoine et responsable des collections archéologiques et artistiques de Beaumont, Beaumont-sur-Oise bien sûr, vice-président du groupement Rempart. Merci pour votre présence, cher Jérémy.
Merci à vous.
Car je sais d'avance que nous allons passer un excellent moment à vous écouter, nous dévoiler toutes les nouveautés en lien avec votre activité patrimoniale. Et à vos côtés, Oudavone Sureau. Bonjour Oudavone.
Bonjour.
Également, merci d'être parmi nous. Fondatrice et gérante de Oudavone SAS, vous nous expliquerez le pourquoi du comment de votre activité et du produit Go Fusion, dont nous avons hâte d'en savoir plus dans quelques instants.
Avec plaisir.
Bienvenue à vous trois dans l'économie en direct et merci d'être les invités en direct sur IDFM Radio.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Juste avant de commencer, un petit communiqué de presse de la part du CEVO pour leur apéro contact. Le prochain aura lieu le mercredi 23 avril. Le thème, l'utilisation de l'IA. Donc ça vous concerne, hein, Oudavone. Quel risque?
Je crois que ça nous concerne tous.
Ça nous concerne tous, en effet. Quels risques et quelles recommandations pour les PME-PMI avec Valérie Dacosta, avocate en tech et data. Le lieu, toujours au conseil départemental du Val-d'Oise, 2 avenue du Parc à Cergy. La participation est gratuite sur inscription préalable au plus tard, une semaine avant l'événement. Il est donc temps de vous inscrire.
Et si on est le 18, il faut se dépêcher.
Hein. Oui, il faut se dépêcher.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
Pierre Cuchely, je pense que vous avez, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, ici à la radio en tout cas, je pense que vous avez beaucoup de choses à nous raconter, mais avant, je crois utile quand même de rappeler à celles et ceux qui nous écoutent à quoi sert une chambre de commerce et d'industrie en général et celle du Val-d'Oise en particulier.
Alors si vous ne savez pas à quoi sert une chambre de commerce et d'industrie, c'est déjà que peut-être on communique mal. Surtout, vous n'êtes pas venu le 1er avril dernier où on a fait un grand événement à la CCI de Cergy qui s'appelait Oser avec votre CCI. Et justement, l'idée, c'était d'inviter des personnes, des chefs d'entreprise qui ne savent pas à quoi sert une chambre de commerce et d'industrie, et notamment celle du Val d'Oise, ou mieux, ceux qui disent ah, CCI, ça sert à rien, faut pas y aller. Donc, c'était un peu l'idée de l'organisation de cette manifestation. On a eu beaucoup de succès, la salle était pleine, beaucoup de personnes nouvelles,
oui.
Des gens qu'on ne connaissait pas, ce qui était vraiment le but, donc je suis très satisfait, les équipes ont très bien travaillé, et je profite du micro pour les en remercier. La Chambre de commerce et d'industrie, notamment dans le Val d'Oise, c'est la maison des entreprises. Mm-hmm. C'est-à-dire, si vous avez un projet, si vous avez une entreprise, si vous voulez grossir, si vous voulez vendre, si vous voulez chercher des locaux, si vous ne savez pas quelle forme juridique adapter, si vous voulez travailler en réseau, si vous voulez venir à effervescence, comme exposant, comme visiteur, si vous voulez aller à l'international, vendre vos produits au Laos, par exemple. Je dis ça comme ça.
Au hasard.
Au hasard. Il faut venir à la CCI. La CCI, c'est votre maison. C'est pas un club fermé. Il faut savoir que toutes les entreprises qui sont inscrites au registre du commerce, et il y en a 83 500 dans le Val d'Oise, sont membres de droit de la CCI. Et il faut vraiment venir. On a des spécialistes. Il y a une cinquantaine de collaborateurs à la CCI du Val d'Oise qui sont vraiment tous spécialisés dans leur domaine et qui sont très compétents. Et nous nous appuyons sur la maison mère, qui est la chambre de commerce régionale de Paris, Île-de-France, le président Ressineau et toute l'équipe, où il y a là encore des compétences que nous n'avons pas forcément dans le Val d'Oise et qu'on va chercher. On travaille tous ensemble. Voilà. Pour ce qui concerne le Val d'Oise en particulier, je pense que sans autosatisfaction ou fausse modestie, c'est une chambre de commerce qui est reconnue pour être dynamique.
C'est vrai, très active.
On essaie
à travers vous, parce que vous êtes vraiment le VRP.
C'est
franchement, vous mouillez la chemise, hein, Pierre,
oui,
faut le dire.
Je pense que ça vaut la peine, pour plusieurs raisons.
Ouais.
D'abord parce que moi, je ne suis pas valdoisien d'origine. Je suis arrivé dans le Val d'Oise le 28 avril 1998. Et ce département, je vous avoue honnêtement, quand je suis arrivé le premier jour à Argenteuil, je me suis demandé qu'est-ce que je venais foutre là. Et j'ai tout de suite été pris d'une affection qui s'est transformée en beaucoup plus que ça depuis. C'est presque de l'amour pour ce département. Et pendant longtemps, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui te plaît tellement dans le Val d'Oise ? Alors, il y a plein de raisons. C'est un département qui est magnifique. C'est un département qui représente la France en miniature. C'est le département le plus jeune de France métropolitaine. Mais c'est pas que ça. En fait, j'ai compris. Je crois que c'est le 13 ou le 14 décembre dernier, pourquoi j'aime tant le Val d'Oise. Parce que moi, je suis Mosellan d'origine. Et en fait, j'ai trouvé plein de points communs entre la Moselle et le Val d'Oise. Ce sont des départements qui ne sont pas connus, qui sont très méconnus. Et quand on les connaît, mais sans y avoir été, on a une mauvaise image. Vous voyez, par exemple, en Moselle, les gens passent pour aller en Alsace. Arrêtez-vous en Moselle. Je suis un peu ambassadeur de la Moselle aussi.
Oui.
Le Val d'Oise, c'est pareil. Quand vous êtes parisien, quand vous êtes des Hauts-de-France, quand vous allez à Deauville, à Trouville, au Mont-Saint-Michel, à Granville, à Dinan, acheter des gavottes chères à notre ami monsieur le préfet Philippe Cour et à Lucie Boulanger, arrêtez-vous dans le Val d'Oise. Le Val d'Oise, c'est formidable. C'est un département extraordinaire. Donc, Ce département, je ne sais plus trop où je voulais en venir, mais
vous parliez d'amour du Val d'Oise.
Clairement, ce département, il mérite qu'on s'en occupe.
Ouais.
On a aujourd'hui un département qui, politiquement, est freiné parce qu'il y a des problèmes de budget, etc., parce que l'État a quand même enlevé des compétences, notamment les compétences économiques, il y a quelques années, aux politiques de notre département. Et nous, chefs d'entreprise, on n'a pas 36 solutions. Il faut qu'on se batte ensemble. Et moi, je pars du principe que, si vous voulez, les entreprises du Val d'Oise, d'abord, on a des pépites. Dans les 83 500 entreprises, il y a des pépites, il y a des sociétés extraordinaires. Et quand j'en visite, vous savez, Jacqueline, que j'en visite beaucoup, et quand je vais dans une entreprise qui est spécialisée dans la sous-traitance aéronautique, et qui me dit, je fais faire ma peinture à Amiens. Je me dis, mais c'est dommage, il y a quelqu'un qui fait de la peinture et qui a des homologations à 10 km, ils se connaissent pas. Et des exemples comme ça, je peux vous en citer des centaines.
Et tu connais pas le salon effervescence, alors.
Oui, mais malheureusement, peut-être. Alors je vais y revenir après au salon effervescence, si vous m'autorisez.
Oui, oui.
Mais les entreprises du Val d'Oise, pour moi, ne se connaissent pas assez. C'est pour ça que nous avons créé le Made in 95. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes commerçant, vous êtes artisan. Vous avez une activité commerciale ou de service dans le Val d'Oise. labellisez-vous Made in 95, c'est très facile. Vous allez sur le site de nos amis de la Chambre des métiers et de l'artisanat ou sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie du Val-d'Oise. Vous avez un endroit, un onglet, je ne sais plus l'endroit par cœur parce que moi je ne le fais plus. Vous avez un endroit où vous pouvez cliquer dessus qui vous propose de rejoindre la communauté Made in 95. On vous demande deux choses très simples. Soit que 50% de la valeur ajoutée est faite en Val-d'Oise, soit que 50% des salariés habite dans le Val d'Oise. Et venez, alors comme je le dis souvent à Cécile du Val d'Oise, on n'a pas beaucoup d'argent parce qu'on est comme tout le monde. Hein. Enfin, voilà, notre pays est en faillite. Et du coup, ben, tout le monde est en faillite, quoi, grosso modo. Hein, là, je suis un peu provocateur. Et donc, du coup, nous, on n'a plus d'argent, mais on a plein d'idées. Et avec ce Made in 95, une fois que vous êtes dans ce réseau, une fois que vous avez ce label, on vous invite régulièrement, par exemple, tous les mois, on fait un petit déjeuner, je crois que c'est le troisième ou le deuxième jeudi, mais ça, on vous informera dès que vous êtes labellisé. Vous venez à la CCI, il y a un thème, un petit exposé sur parler à un banquier, présenter un business plan, développer à l'international, dire du bien du président de la CCI. Ça c'était pas prévu.
Au passage.
Et derrière, il y a un café où on réseaute. Et l'idée, elle est là, c'est ouais. de se connaître et de savoir vous avez besoin d'une application pour faire de la RSE. N'allez pas à Paris, vous avez tout ce qu'il faut dans le Val-d'Oise. Vous avez besoin, il y a des monuments historiques dans le Val-d'Oise, vous ne savez pas qui vous adresser, vous allez vous adresser à Jérémy. Enfin, je veux dire, l'idée, voilà, c'est de créer un lien fort. Il ne faut pas que ce soit c'est pas un label ou c'est pas une norme, le Made in 95, c'est une famille. C'est une famille dont on essaye, encore une fois avec nos amis de la Chambre des métiers et de l'artisanat, d'être les animateurs. L'idée, c'est développons les entreprises. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Moi, je considère que le rôle de la CCI est peut-être mon rôle à moi. Je sors un peu de mon rôle de président de la CCI. Je pars du principe que s'il y a du développement économique sur notre territoire, il y aura du boulot pour nos entreprises. C'est pour ça que je me bats pour des projets. C'est pour ça que je suis battu avec Philippe Écran pour que le salon Effervescence devienne un salon référence. Et il est en train de faire des petits. J'ai un petit scoop pour vous. Il y aura bientôt un salon Effervescence à l'étranger, en tout cas. C'est pas encore signé, mais on se bat et on a plusieurs candidatures. Mais c'est pour ça que je me suis battu pour le projet Agoralim, dont tout le monde vous dit c'est formidable, ça vient. Mais vous savez, au début, moi, quand je parlais d'Agoralim, il y en a plein qui me disaient ça sera jamais. J'ai même allé à la chambre des élus qui m'ont dit mais tu rêves, il y aura jamais Agoralim. Agoralim, c'est fait, ça va se faire. Et on pourra en parler aussi quand vous voulez. Je connais bien le dossier. Donc je suis un peu sorti de ce rôle et je considère que voilà, il faut que comme le département n'a plus les compétences économiques, que le CEVO fait un travail formidable, mais là encore avec du sparadrap, du scotch, et parfois il est un petit peu usé parce qu'ils n'ont pas d'argent non plus. Moi je le fais partout où je passe. J'ai rencontré le président de la République l'année dernière, le 1er mai, à la fête du Muguet, à l'Élysée. Et il m'a serré la main, comme il a serré la main au centre de la 5e présidente. J'ai dit, monsieur le président, je peux vous parler pendant 30 secondes. Il m'a dit oui. J'ai parlé d'Agoralim, j'ai parlé du bruit des avions aussi. En disant, attention à ce qu'on fait, parce que les avions font du bruit, c'est pas vraiment une nouveauté. Attention au développement économique et à l'emploi, parce que l'aéroport de Roissy, c'est quand même un poumon important pour l'économie du département. C'est un argument aussi, hein. Quand vous parlez à un Japonais, ou un Auvergnat, où il dit, tu sais où c'est le Val-d'Oise? Il dit non, j'ai peut-être déjà venu à Paris en avion. Oui, ben, t'as mis un pied dans le Val-d'Oise. Je peux vous parler pendant 7h17, c'est le record de Fidel Castro. Je rêve de le battre, mais j'y arrive pas.
Bon, aujourd'hui, on prévoira une autre émission. Donc, j'entends tout ce que vous dites et je peux témoigner du fait que chaque fois que vous venez, c'est votre leitmotiv. Vous avez quand même réussi à imposer, je crois depuis une dizaine d'années, de travailler tous ensemble, les chambres consulaires, les représentants de l'État, les collectivités territoriales, les entreprises, les réseaux. Voilà, vous avez ce résultat aujourd'hui.
Alors c'était effectivement une fierté, là encore, que j'ai pas tout seul, mais qu'on a tous ensemble. Alors en fait, ça fait 7 ans aujourd'hui que je suis président de la Chambre de commerce et d'industrie. Vous savez comment je le sais? Je reçois plein de messages sur LinkedIn ce matin. Joyeux anniversaire.
Oui.
Mon anniversaire, c'était pas aujourd'hui, c'était il y a 10 jours. Mais effectivement, ça a démarré auparavant, lorsque j'étais le président d'un syndicat patronal, la CPME, j'étais président du Val-d'Oise et de l'Île-de-France, où je crois que j'ai réussi à faire passer un message avec d'autres, qui est que l'intérêt supérieur vaut à toutes les rivalités, par rapport à toutes les rivalités. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on développe nos entreprises, qu'on développe le boulot. En ce qui concerne la CCI, par exemple, les entrepreneurs qui viennent à la CCI s'en foutent de savoir que le président il est CPME ou MEDEF. Ce qu'il veut, c'est j'ai un problème, comment vous me le résolvez, et on le résout, ce problème. Donc c'est ça qui est important. Donc je voudrais parler à un moment donné des élections de l'année prochaine,
on
si vous me laissez
deux minutes
tout à l'heure. Mais c'est ça qui est important. Effectivement, moi je suis très très fier qu'on ait réussi dans le Val d'Oise. Et vous savez, le préfet régulièrement dans ses interventions parle de la réussite du Val d'Oise. Parce que c'est vrai que nous sommes le département le plus jeune de France métropolitaine, mais on représente 7% de l'emploi salarié en Ile-de-France, 14% du PIB. En termes d'industrie, nous sommes le département le plus dynamique d'Île-de-France actuellement. C'est le département où les entreprises investissent le plus. Le département où les entreprises se développent le plus. En termes de développement international, le Val d'Oise est un département qui a un fort taux d'internationalisation et qui progresse plus que nos voisins. Et ça, il faut qu'on en soit fier. Et si on a réussi ça, c'est parce que justement, les chambres consulaires, les syndicats patronaux, le CEVO, le conseil départemental, les services de la préfecture, on ne louera jamais assez la qualité des relations que nous avons avec monsieur le préfet et avec ses équipes, avec Lucie Boulanger qui nous a quittés il y a quelques jours pour aller à Paris, avec Laetitia Césari qui nous a quittés pour aller il y a pas très loin à Saint-Germain-en-Laye en qualité de sous-préfète, et avec toutes les équipes de la préfecture, on a vraiment développé des bonnes relations. Et le résultat, il est là, ce sont ces indicateurs positifs, c'est le fruit de tout ce travail. Et moi, c'est mon combat. Ça, c'est vraiment mon combat. Et si ça se fissure, ça sera sans moi. J'arrêterai du jour au lendemain. Si je sens que ça se fissure, j'arrêterai du jour au lendemain. Et je suis inquiet, pour être très franc. Mais on en reparlera quand on parlera de l'élection à la Chambre de commerce.
Mais écoutez, parce que c'est vrai que je sais pour vous que l'idée, c'est d'aller toujours plus loin, plus fort, hein, de construire, de développer, et puis d'être au service du territoire. Mais voilà, parlez-nous des élections, Pierre, je crois que c'est important.
Écoutez, les élections à la Chambre de commerce et l'industrie donc, auront lieu en octobre 2026, sauf s'il y a un report. Ce qui n'est pas impossible, parce que parfois, quand le calendrier, lorsqu'il y a trop d'élections autres, style municipal, et je crois qu'il y en aura l'année prochaine, législatives, je ne serais pas étonné qu'il y en ait aussi quelque part avant, les présidentielles juste après, ce n'est pas impossible que les élections aux chambres consulaires soient reportées. Mais aujourd'hui, le calendrier officiel, c'est, je crois, le mois d'octobre 2026. Bon. Se pose la question du Val d'Oise, que va-t-il se passer à la Chambre de commerce et d'industrie? Tout le monde me dit, ah bah tu te représentes. C'est la tendance, mais c'est pas sûr. Si j'arrive à faire ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire à avoir une équipe, une liste qui soit 50% CPME, 50% MEDEF, avec des deux côtés des représentants de la FFB en nombre égal, et une équipe complémentaire, comme c'est le cas aujourd'hui, j'ai un premier vice-président, Philippe Écran, qui mouille la chemise, et pas seulement sur le salon d'effervescence, j'ai une vice-présidente, Sylvie Cartier, qui mouille la chemise. J'ai des élus derrière, bien sûr des collaborateurs, mais j'ai des élus derrière qui font le job, qui sont là. Parfois, je les appelle le matin en disant, écoute, je vais aller là ce soir, je peux pas y aller, tu y vas, mais tu y vas pas pour y être. Tu y vas pour dire que tu représentes la CCI, que le président est pas là, que c'est toi qui le représente, et tu prends la parole pour qu'on se souvienne que tu sois là. Tout le monde le fait. Enfin, vraiment, on a une super équipe. Il n'y a pas de place pour les conflits personnels, il n'y a pas de place pour les rancœurs. Vous avez fait mon CV tout à l'heure, jusqu'à il y a quelques mois, j'étais vice-président de la CPME nationale en charge des territoires. Moi, il y a un truc qui m'a... Donc j'ai fait toute la France. Mm-hmm. Et il y a un truc qui m'insupportait, c'est quand je voyais un président ou un délégué d'une CPME dans un département quelconque, qui me dit « Ah, je suis content, j'ai piqué un adhérent au MEDEF ». Mais je dis « Mais on s'en tape que t'aies pris un agent. Qu'est-ce que ça t'amène de piquer un adhérent au MEDEF ?» Et l'inverse est vrai aussi.
C'est
complètement idiot. Il y a 4 millions d'entreprises en France. Il y en a à peu près 500 000 qui sont à la CPME ou MEDEF. Allons donc chercher les 3 millions et demi d'entreprises qui doivent être représentées, qui ont besoin d'être représentées, parce que quand on est tout seul, franchement, on est très fragile. Quand on est dans le Made in 95, on est un peu plus protégé. Ou en tout cas, on fait partie d'un réseau. Mais surtout, protégez-vous. Adhérez à un syndicat patronal, que ce soit la CPME, que ce soit le MEDEF, que ce soit un autre. Adhérez à un syndicat patronal. Si vous êtes une toute petite boîte, ça va vous coûter 200-300 euros par an, j'en sais rien. protégez-vous, ça vous permet d'abord de rencontrer des gens, ça vous permet de faire remonter les difficultés que vous avez, et ça vous permet de que cette voix, elle soit portée. Moi, le nombre de fois où j'étais au comité exécutif de la CPME, où j'entendais des remontées qui venaient du Cantal, qui revenaient de l'Ardèche, qui revenaient du Val d'Oise, qui venaient d'ailleurs, de chefs d'entreprise qui avaient des difficultés, qu'ils faisaient remonter, ça va au haut niveau. Et le président national de la CPME, comme le président national du MEDEF, quand il va voir le président de la République, le Premier ministre, le ministre du Travail, le ministre de l'Économie, etc., il répète tout ça. Donc c'est important. J'en profite aussi pour dire, parce que les temps sont quand même incertains, que quand vous êtes adhérent d'un syndicat patronal, vous pouvez adhérer à une assurance qui s'appelle la CSG. La CSG, c'est l'assurance chômage des dirigeants. Vous savez, demain, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes salarié de votre entreprise, vous claquez vous claquez la boîte. Pour des raisons, ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Ça m'est arrivé à moi. Ça m'est arrivé à moi un jour, retournant de technologique, je perds mon chiffre d'affaires, 50% de mon chiffre d'affaires, du jour au lendemain. Vous avez des gens qui ont 30 ans d'ancienneté, vous pouvez pas vous sauver. C'est pas possible. Pas en France, en tout cas. Bon, alors, bien sûr, derrière, pendant quelques temps, vous êtes montré du doigt, puis un jour, vous rebondissez, et il y a des gens pour vous aider à ça. Mais la CSG, c'est une assurance. Ça vous permet, pendant au minimum 12 mois, de toucher un revenu. Et c'est même pas un revenu, c'est une assurance. Donc ça veut dire que c'est même pas imposable.
Oui, c'est pas imposable.
C'est hyper important. Donc les jeunes, là, chefs d'entreprise, il faut le faire, vraiment faut le faire. Voilà, je reviens à la CCI, si j'arrive à trouver, d'abord si...
De moi. Parce que vous avez un doute par rapport au montage de cette équipe dont vous venez de parler?
J'ai pas de doute, mais je veux avoir des certitudes.
Oui.
Voilà.
Mmh.
Moi, je veux que l'on travaille ensemble. Je veux les conflits, on les laisse dehors, qu'ils aillent se battre sur le terrain, qu'ils aillent se battre chez les entreprises, qu'ils aillent se battre où ils veulent. En tout cas, moi, je n'en veux pas. C'est pas le rôle de la CCI. On est là pour du positif, on est là pour du constructif, on est là. Franchement, je suis d'accord quand même avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais encore une fois, sans faire de fausse modestie, je pense que je suis fier. Par exemple, je vais vous donner un exemple, parce que c'est pas moi, c'est la CCI, mais du Val d'Oise. Il y a une assemblée générale de CCI France. Au mois d'octobre ou novembre dernier. CCI France, c'est la maison mère de toutes les CCI de France. Vous avez la CCI France, CCI Paris de France, et puis tout petit en bas, la CCI Val d'Oise. Ils ont passé 5 vidéos d'une minute et demie sur les 5 actions phares des CCI en France. Dans les 5 vidéos, vous aviez la CCI Val d'Oise. Et quand j'ai demandé au responsable de la com, pourquoi t'as fait ça? Ils vont tous me prendre en grippe. Il m'a dit parce que vous bougez comme des fous.
Ouais.
Et c'est pas Pierre Cuffy qui bouge. C'est pas Philippe Écran. C'est pas Laure. C'est pas les collaborateurs de la chambre. C'est tous ensemble. On se bouge, on est présent partout. Hier soir, Réseau Entreprendre, on était là à 4. Effervescence, on le porte quand même beaucoup. Et si aujourd'hui il est en train de se développer sur les territoires d'à côté, c'est aussi parce que la CCI de Val d'Oise porte la parole. Moi, encore hier matin, on était en séminaire CCI Paris de France. Et j'ai porté le fait que voilà, effervescence, faut que ça se développe, faut que ça se développe en Ile-de-France, faut que ça se développe en France. Il y a déjà la Vendée, il y a déjà la Mayenne. Et il y aura, j'espère bientôt,
un département pas très loin. Il y a le 93,
il y a
le
93 et 94 en Ile-de-France.
Ouais.
Mais j'espère en faire d'autres. Donc en Ile-de-France d'abord, mais aussi en province et à l'étranger. Mais j'en parlerai tout à l'heure.
Oui, voilà, on marque une... Vous reprenez votre souffle, Pierre, nous aussi.
Moi, je ne manque pas de souffle, Jacqueline.
Et on reprend... Je voudrais qu'on parle de ce fameux salon Effervescence.
Avec plaisir.
Qui vient de se produire là, le 25 mars. À tout de suite.
Mon regard se croise, je te vois sourire. J'ai peur de la distance. On échange ses phrases. Je te vois grandir. Et je perds de la confiance. Comment faire pour te comprendre? Comment faire pour te décoder? Oh, à quand remonte la
dans un monde parallèle. Maintenant pour se parler, on n'ouvre plus le temps. Et l'amour est virtuel. Comment faire pour te comprendre? Comment faire pour te décoder? Que faut-il que j'apprenne pour que l'on se rapproche? Toi qui as le monde entier dans la poche. Ensemble, on a regardé le ciel.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Et ce matin, je reçois Pierre Kuchli, Jérémy David et Ouda Von Sureau. Pierre, déjà, félicitations hein, pour le fait que le Val d'Oise soit dans les 5 vidéos. Donc ça, c'était une vraie reconnaissance et je suis très contente pour vous. J'aimerais qu'on revienne sur ce fameux salon Effervescence. Donc, c'est toujours une réussite, hein, il faut le dire. Moi, c'était mon 5e salon cette année. Et franchement, c'est un moment que j'attends avec impatience. Mais là, je sais pas, j'ai eu l'impression que cette année, il y avait quelque chose de plus. Enfin, c'est assez éclatant. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, chaque année, je trouve que c'est vraiment un grand événement. Il faut savoir que ce qui est devenu l'effervescence au départ, ça a été créé à Argenteuil.
Oui.
Par Philippe Écran et moi. Lui était président, moi j'étais vice-président d'une association qui s'appelait l'ADPAVAB. Et en fait, on se rencontrait tous les mois avec les adhérents. Et tous les mois, aux mêmes personnes, j'ai dit, toi, rappelle-moi, qu'est-ce que tu fais, etc. Puis un jour, on s'est dit avec Philippe, ça serait bien qu'on trouve un moyen de mémoriser ce que font les uns les autres. Et la bonne solution, c'est de se voir. Et on avait convaincu le maire d'Argenteuil de l'époque de nous prêter une salle, et on avait fait un événement sur une demi-journée, ou pendant 2-3 heures, je crois, où les adhérents donc venaient avec un produit. On avait tous la même table, tous le même nombre de chaises, et il n'y avait pas de gros et de petits. Tout le monde avait le même stand, entre guillemets.
La même importance.
La même importance, donc vous pouviez avoir des boîtes comme Dassault, avec le petit artisan à côté, ils étaient sur le même plan. Et on était 33. Je m'en souviens parce que toute la journée, je tournais dans la pièce en me disant « dites 33, dites 33, dites 33 ouais. ». C'était il y a plus de 13 ans aujourd'hui, puisque nous avons, à Villiers-le-Bel, fait la 12e édition, pardon, du Salon Effervescence. Il y a eu une année Covid où on n'en a pas fait. C'est l'événement Made in 95 de l'année. On limite à 250 exposants. Donc ça fait à peu près 200-210 entreprises, puisqu'on ouvre aussi à des associations, à des écoles, à des gens qui ont besoin qu'on leur mette un coin avant. Et c'est ça aussi la fierté. La fierté, c'est qu'il y a une quarantaine de participants au Salon Effervescence. C'est-à-dire que c'est pas la Chambre de commerce toute seule. Hein.
Oui.
On la porte un petit peu, oui, clairement.
L'ADPAVAB
la porte aussi. Et les autres, voilà, apportent un soutien important, la CMA, le CEVO, la IGPF, etc. Enfin, tout le monde. C'est vraiment, moi, ce qui importe. Il y avait une révolution il y a 4-5 ans, parce que d'un seul coup, des tables avec des chaises, on est passé à des manches debout. Mmh. En disant, il faut que les gens bougent. Et ce qui était embêtant, d'ailleurs, j'en vois un d'ici. Un manche debout, un souvenir d'effervescence, du premier effervescence et des anciennes tables. les gens, en arrivant le matin, en découvrant les manches debout, disent « Oh là là, quelle horreur, il va falloir rester debout toute la journée. » On leur a expliqué. L'idée, c'est que vous ne savez pas sur votre sang, c'est que vous bougez, c'est que vous allez les uns vers les autres. Je rappelle que de 11h30 à 14h30, le truc, il est fermé. Les 250 exposants, qui sont donc des membres de nos réseaux, des associations, échangent entre eux, qui tu es, qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis l'année dernière, qu'est-ce que tu fais, je te connais pas, tiens, tu dis, voilà, machin, je te présente un tel. Bon, et à 14h30, on ouvre au grand public, 1000 visiteurs à peu près encore cette année. Donc les manches debout, ils ont fait la tronche hein, quand ils sont allés le matin. Par contre, le soir, quand on leur a dit, vous pouvez partir avec, d'abord, ils avaient tous ce sourire, les yeux qui pétillent, et partaient tous avec. D'ailleurs, pour me marrer, moi, je me planquais derrière la porte, et les trois premiers qui partaient, je criais au voleur. Et c'est ça le succès d'effervescence. Je veux dire, moi, quand je fais un truc, je vous ai parlé de l'événement du 1er avril pour découvrir la chambre de commerce, le salon effervescence. Qu'est-ce que je fais quand j'y vais? Je me fous à la sortie le soir, je vois la tête des gens. Mm-hmm. S'ils ont les yeux qui pétillent et le sourire, je dis on a gagné. S'il y en a un seul qui fait la gueule, je fais la gueule. Je suis pas content. Donc, et c'est ça la force d'effervescence. Et c'est ça que je voudrais qu'on duplique dans les autres départements d'Île-de-France, bien sûr, dans tous. Alors, ils me disent tous, oui, mais nous, on fait des événements aussi, ça. Super. On peut le faire évoluer aussi effervescence, mais ça serait dommage parce qu'enfin ce serait dommage.
Oui,
ça marche. Il y a qu'un truc qui me gêne moi sur effervescence, et je vais tout vous dire parce que on est entre amis, personne ne nous écoute. Ce salon effervescence, au départ, l'idée c'était vraiment que ce soit un salon un peu qui mette en avant l'industrie dans le Val d'Oise.
Ah oui.
Et on s'était fixé une règle qui est 50% d'exposants qui soient soit des industriels, soit des services directs à l'industrie, partant du principe que les consultants, etc., et j'ai strictement rien contre eux, au contraire, ben, même s'ils n'ont pas un stand, c'est pas grave, ils vont venir. Bon, il y a eu les premières années plus d'industriels qu'aujourd'hui. Je pense que la différence, c'est que des coachs, des experts comptables, des avocats, viennent se faire un réseau. Un industriel, quand il vient, il veut du boulot tout de suite. C'est pas possible comme ça, ça se passe pas comme ça. Mais je pense que c'est un moyen de se faire connaître, c'est encore un moyen de faire briller le Val d'Oise. Et donc, je souhaiterais qu'on travaille à ce qu'il y ait à nouveau plus d'industriels qui viennent au salon d'effervescence de l'année prochaine, qui aura lieu où? Je peux pas vous le dire, j'en sais rien pour l'instant, et c'est pas moi qui décide, contrairement à ce que croit la légende. Et pour ce faire, j'ai décidé, avec la Chambre de commerce du Val-d'Oise, et là je vais vous livrer un scoop, nous allons lancer un club industrie dans le Val-d'Oise. Aujourd'hui, il existe un club commerce qui marche super bien, et qui n'est d'ailleurs pas ouvert aux commerçants, mais qui est ouvert notamment aux élus dans les commerces, aux chargés de commerce dans les villes, ou aux maires qui le souhaitent. Mais nous allons relancer un club industrie. Alors pour l'instant, c'est une idée que j'ai lancée il y a 8 jours. D'ailleurs, j'ai vu un collaborateur qui s'occupe de l'industrie à la CG du Val d'Oise, qui a été très surpris il y a 2 jours quand j'ai annoncé ça en assemblée générale, parce qu'il n'était pas encore au courant, j'avais pas eu le temps d'en parler. Mais Jacqueline, vous me connaissez assez pour savoir que quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas.
Jusqu'au bout, elle va jusqu'au bout.
Là où je pense. Et donc, on va le faire. L'idée, c'est quoi? C'est là encore que les entrepreneurs du Val d'Oise soient unis, se connaissent les uns les autres, plutôt que d'aller chercher en Picardie, un peintre, cherchons-le dans le Val d'Oise. Faisons des offres communes aussi, je veux dire.
Oui, puis c'est complètement dans le...
Je raconte toujours une histoire, c'est vous allez à un salon du vélo.
Oui.
Bon, vous voyez un Chinois qui fait des chaînes. Vous lui dites, moi je veux bien t'acheter la chaîne, à condition que tu me trouves aussi le mec qui fait les pignons, et le mec qui fait les roues, et le mec qui fait... Il lui dit, mais si tu veux, moi je te fournis tout. Bon, vous demandez ça à un Français qui fait des chaînes, il dit, non mais moi je fais des chaînes.
Oui.
Eh bien, il faut qu'on change ça. On travaille en réseau, il faut qu'on soit capable d'offrir des offres groupées. Et c'est pas ça, la peine de savoir qui est le chef, c'est pas la peine de savoir qui c'est qui va tirer profit. Une bonne affaire, c'est une bonne affaire pour tout le monde. Il ne s'agit pas de savoir
mais c'est sûr, c'est complètement dans la... la volonté de la souveraineté française, industrielle, qu'on veut rétablir.
Moi j'entends beaucoup, j'ai encore entendu ce matin quelqu'un qui critiquait, qui disait oui, il faut réindustrialiser la France, et le gouvernement ne fait rien, mais c'est un effort commun. Vous savez, je me suis rendu modestement célèbre. Un jour j'ai été interviewé par une commission sénatoriale. Alors, pour être très franc, c'était pendant le Covid, j'avais un masque qui n'était pas du tout adapté. J'avais du mal à parler. À un moment donné, en plus, je me regarde, là, il y avait un écran de télé au-dessus, c'est au Sénat, je me vois à la télé, en direct. Je dis, merde. Je me suis dit, j'étais très mauvais. Et quelques temps plus tard, j'ai croisé une commission de sénateurs à un salon, Il y en a qui vient me voir, il me dit « Ah super, comment ça va et tout ?» Je dis « On se connaît ?» Il me dit « Ben oui, vous êtes intervenu à une commission sénatoriale et vous avez dit un truc qui m'a marqué, je le dis tous les jours. » Je dis « Moi, j'ai dit quoi ?» Il me dit « Ben vous avez dit en cas de crise, les Allemands achètent Allemands, les Anglais achètent Anglais, les Italiens achètent Italiens, et le Français l'achète au moins cher. » C'est exactement ça. Excusez-moi, hein. Je veux heurter personne, c'est mais c'est exactement ça. Soyons fiers d'être Français. Achetons Français. C'est facile aujourd'hui. Vous allez dans les supermarchés, quels qu'ils soient, vous avez des étiquettes, il y a marqué dessus, fabriqué en France, origine France, machin. Achetons français. Mais s'il faut payer un peu plus cher, éventuellement, oui, un jour, on le payera moins cher dans nos impôts, dans nos charges sociales, parce que ça fera moins de chômeurs. Soyons fiers d'être français. Et je pousse plus loin, soyons fiers d'être valdoisiens. Je ne sais pas s'il me reste encore beaucoup de temps, mais je termine là-dessus, parce que pour moi, c'est hyper important. C'est vraiment un combat que j'essaie de mener. Pendant les 5 ans où j'étais vice-président de la CPME nationale, où je me suis promené dans toute la France, quand on me demandait d'où tu viens, je répondais à chaque fois, je suis né en Moselle, parce que j'en suis fier, mais je suis dans le Val d'Oise, et ça aussi j'en suis fier. Au début on me disait, oh le Val d'Oise, c'est où, c'est quoi, c'est machin, oh là 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 là. Eh bien ça c'est fini. Aujourd'hui, partout on me dit, ah mais le Val d'Oise, c'est un département dynamique, c'est un beau département, on a vu des photos du château de Royaumont, on a vu la Roche-Guyon, on a vu l'Isle-Adam, on a vu les impressionnistes, on a vu Auvergne. Mais je dis, mais encore, vous n'avez pas tout vu, venez voir.
Bon.
Soyons fiers d'être valdoisiens, soyons fiers de ce qu'on fait dans le Val d'Oise. Au niveau, je vous ai dit les chiffres tout à l'heure, je vous ai donné des éléments tout à l'heure, soyons fiers de ce qu'on fait dans notre département. C'est un département super, franchement. Il y en a pour tous les goûts. Moi je dis, le Val d'Oise...
bien évolué.
C'est la France en miniature, vous avez tout, il manque les montagnes, on a quelques collines, on a pas la mer, on a des lacs, on a des forêts, on a des châteaux, on a des vieux villages, on a des villes modernes, on a des villes nouvelles. Cergy-Pontoise, il semblerait que ce soit la ville nouvelle, la plus agréable à vivre en France. Vous avez des villes, Argenteuil, grande ville, 120 000 habitants, encore une fois, moi ça fait 20... merde, je voulais pas le dire, 27 ans que je suis à Argenteuil. C'est une ville qui évolue positivement. Oui. Enfin, franchement, c'est une ville où il est agréable à vivre. Il y a certains quartiers qui sont plus compliqués que d'autres. Ça s'améliore, tout ça. Et dans ces quartiers, et je terminerai peut-être là-dessus, vous avez aussi des jeunes qui ont envie de s'en sortir. Et c'est pour ça que je suis fier du projet Agoralim.
Oui.
Je suis fier d'avoir participé à Agoralim parce que Agoralim, ça va donner de la chance à des jeunes de nos quartiers difficiles. C'est facile de dire, c'est des voyous, c'est ça. Il n'y a pas que ça.
Oui.
Y a pas que ça.
Oui, c'est un projet de 4 000 emplois. Hein,
5 000 emplois directs.
5 000 emplois
directs, autant d'emplois indirects. Et la première phase qui va démarrer à Goussainville, ça va être à peu près un tiers de ça. Et la première pierre sera posée, je pense, j'espère, au plus tard l'année prochaine.
Ah, très bien. Je suis ravie de l'apprendre parce que vous vous souvenez, j'avais fait une émission au tout début avec vous, Stéphane Layani et puis Daniel Fargeau qui n'était pas encore sénateur. Et c'est vrai que moi j'avais posé la question à Stéphane Layani, je lui avais dit mais quelle assurance avons-nous que ce projet va aboutir? Et bon, il avait fait sa réponse bien sûr. Donc je suis vraiment ravie de savoir que ça va aboutir.
Jacqueline, la première fois que j'ai rencontré Stéphane Layani, on a esquissé un projet au nord de Paris. Je lui ai dit, vous le faites dans le Val d'Oise, vous aurez un allié de poids, vous le faites à côté, vous allez avoir un ennemi de poids. Quand il m'a dit banco, je l'ai dit à tout le monde, Agoralim va se faire. Agoralim va se faire, j'y crois, depuis le début. Et je me suis battu avec d'autres, avec plein d'autres, pour que ça se fasse, du monde politique, du monde économique, pour que ça se fasse. Je veux qu'il y ait une priorité pour les entreprises du Val d'Oise, y compris dans la construction. Et j'ai un engagement de Stéphane Layani sur ce point-là. Vous direz, les engagements n'engagent que ceux qui y croient. Mais moi, je me battrai pour ça et je continuerai à me battre. Et aujourd'hui, voilà, il y a une phase qui est acquise. Hein. Ça y est, Agoralim, c'est officiel. Ça va démarrer. Hein. Il restait un dernier point qui était la concession à la Semaris qui a été prolongée jusqu'en 2068, je crois, de mémoire. Et donc, c'est ce qui manquait pour que, bien entendu, ils aient le temps de rentrer dans leur investissement. Moi, j'ai eu des présidents de CCI qui m'ont dit, tu rêves, ça se fera jamais. Je vais me faire un plaisir de les inviter à la pose de la première pierre.
D'où la nécessité que vous soyez réélu à la CCI. Vous présentez.
Merci, mais vous savez, les chambres de commerce et d'industrie ont été inventées, je crois, par Napoléon.
Ouais.
Il y a eu plein de présidents qui sont passés par là. Il y en a eu des très très bons. Il y en a eu des bons, il y en a eu des très très bons. Mon prédécesseur, Frédéric Verne, était très très bon aussi. Il y aura un successeur. Nul n'est indispensable.
Indispensable, voilà. C'est vrai. Merci infiniment, Pierre, pour...
Merci à vous, j'espère ne pas avoir été trop long.
Non, vous savez que j'adore toute cette énergie que vous dégagez, cet enthousiasme, et voilà, c'est trop bien. Merci infiniment.
C'est pas facile tous les jours, par contre. Vous sachiez qu'il y a quand même des fois où je me demande si je suis pas un peu Don Quichotte.
Ouais. Bon, on fait une pause. Et puis on retrouve Jérémy David et Oudah Von Sureau tout à l'heure.
J'espère que je n'aurai pas pris tout le temps de parole.
Non, il en reste. Merci Pierre.
IDFM, 98FM.
IDFM Radio, c'est l'économie en direct. Merci d'être resté avec nous pour la poursuite de cette émission dans laquelle je reçois Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, Jérémy David, secrétaire du Cercle Beaumontois du patrimoine et responsable des collections archéologiques et artistiques de Beaumont-sur-Oise, vice-président du groupement Rempart, et Oudah Von Sureau, fondatrice et gérante de Oudah Von SAS. Pierre Cuchely, vous connaissiez le Cercle Beaumontois du patrimoine ?
Eh bien non.
Non, donc voilà, une belle rencontre encore ce matin.
Un nouveau fan.
Puisque c'est une belle association qui œuvre avec succès pour restaurer les monuments de Beaumont-sur-Oise et avec un secrétaire tout aussi dynamique que vous, je crois, Pierre. Jérémy David, donc vous êtes historien de l'art, animateur de chantier sur monuments historiques. Autant d'activités entièrement bénévoles, je crois bien.
Absolument.
C'est ça. Et votre formation, donc vous avez un Master 2 de lettres modernes et un diplôme de muséologie de l'École du Louvre, donc c'est pas rien. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler d'un nouveau chantier qui va avoir lieu bientôt. Donc je vous laisse nous le présenter, Jérémy.
Merci Jacqueline. Effectivement, nous, le Cercle Beaumontois du patrimoine, donc nous sommes à Beaumont-sur-Oise et nous travaillons à la valorisation des monuments de la ville. Pas encore à la restauration de tous, nous sommes surtout sur le château de Beaumont depuis 2022, où nous faisons un chantier estival tous les ans, qui vise d'abord à rappeler aux gens qu'il existe un château dans cette ville, en plein cœur du centre-ville. Nous sommes très aidés par la mairie et on les remercie parce que ils ont engagé des initiatives tout à fait positives pour faire venir les gens dans le château pendant nos activités. Nous avons deux types d'activités. Des activités le week-end, je dirais, pour les habitants de la ville qui adhèrent à notre association et qui permettent aux gens de s'approprier le château en y intervenant.
D'accord.
C'est-à-dire en faisant du jardinage. Quand ce qu'on appelle jardinage, c'est-à-dire retirer un peu le lierre.
Oui, alors, les mauvaises
voilà.
herbes.
Alors, chez nous, il n'y a pas de mauvaises herbes.
Ah,
parce que,
ce sont des herbes folles.
Voilà, ou on appelle aussi ça des adventices de manière très poétique. C'est-à-dire des herbes qui sont spontanées. Certaines sont plus problématiques que d'autres. Par exemple, le buddleia, c'est un peu difficile. Mais,
oui, mais ça fait venir des papillons.
Exactement, ça fait venir des papillons, mais ça les épuise, les papillons. Parce qu'en fait, ce sont des plantes pleines de glucose qui sont un peu... qui enivrent les papillons et qui vont finir par les épuiser. Ils ne vont pas butiner les autres plantes, donc c'est un peu problématique. Mais c'est une stratégie coloniale des Bodleia. Enfin bon, il y a des logiques de conquête de territoire chez les plantes comme il y a chez les humains. Donc il faut pouvoir réguler tout ça, puisque nous avons la chance, nous, humains, de pouvoir intervenir sur la nature. Alors on a intervenu parfois négativement sur la nature, mais on peut aussi intervenir positivement. Et c'est tout le projet du Cercle Beaumontois du patrimoine, de faire du château de Beaumont un lieu accueillant, à la fois pour les gens, mais aussi pour l'environnement, d'en faire un lieu où tout le vivant est le bienvenu. C'est-à-dire que l'année dernière, notre chantier d'été s'est concentré sur la collégiale Saint-Léonore du château de Beaumont. C'est un vestige du château du XIIe siècle. C'est un... Enfin, quand je dis XIIe siècle, c'est très vague, parce qu'en réalité, le bâtiment a vécu de multiples vies jusqu'au XIXe siècle. Et aujourd'hui, il en reste des petits bouts qui ont été mis sous bâche après les fouilles archéologiques des années 1980. Et cette bâche, qui est restée là 35 ans, nous l'avons enfin enlevée. Mmh. Et le chantier, l'année dernière, a été assez impressionnant, puisqu'en deux semaines, nous avons retiré la bâche, mais pas seulement la bâche, nous avons retiré ce qui soutenait la bâche, c'est-à-dire 10 mètres cubes de béton, ce qui veut dire quelque chose qu'on ne voit pas souvent en chantier de bénévoles, un chantier de marteau-piqueur pendant 10 jours, enfin pendant 10 jours, pendant une bonne semaine, oui. Sous la pluie. C'était assez étrange, exotique, d'avoir ce marteau-piqueur qui a enlevé ces 10 mètres cubes de béton qui soutenait la bâche.
Avec combien de personnes ?
Alors, nous avions un groupe de 7 bénévoles et en plus de cela, nous avons eu des bénévoles locaux qui se sont ajoutés pour une vingtaine de personnes régulièrement qui sont venues. Et donc, pour vous expliquer un peu, les chantiers qu'on fait avec le Cercle Beaumontois du patrimoine, ce sont des chantiers qui font partie d'un groupement, d'une union nationale qui s'appelle Rempart et qui organise des chantiers de bénévoles pour faire participer les citoyens à la restauration des monuments historiques. Et ces chantiers, c'est une manière de vie collective, c'est-à-dire que pendant une dizaine de jours, on invite des gens qui ne sont pas forcément des professionnels à venir découvrir une technique du patrimoine, une technique du bâti ancien. L'année dernière, c'était avec un maçon du bâti ancien, et ils sont encadrés également par un animateur pédagogique, un animateur ou une animatrice. Et l'année dernière, notre animateur était aussi un animateur nature qui a sensibilisé les visiteurs du château et les bénévoles qui travaillaient à la question de l'environnement et du vivant dans le château. Donc ça s'est passé par des relevés de faune, de flore. On a accueilli beaucoup d'enfants, près de 200 enfants pendant le chantier. Et ces enfants ont découvert le château sous l'angle des animaux et des insectes, par exemple. Et avec les plantes, on peut aussi comprendre l'évolution du château, y compris dans l'histoire de sa destruction. Puisque ça fait 3 siècles que le château est en ruine. Et en 3 siècles, il a eu le temps d'être un peu envahi par tout un tas de végétaux qui eux-mêmes ont une histoire. Et pour l'organisation des chantiers, nous vivons en collectif, donc pendant 2 semaines, et l'idée c'est que tout le monde participe à la nourriture, au ménage, aux activités de chantier. Tout ça est aussi réglementé par une programmation technique validée par l'architecte des bâtiments de France et la Conservation régionale des monuments historiques, c'est-à-dire la DRAC. Ça paraît très sérieux, mais en fait, c'est un peu comme une colonie de vacances où on travaille, mais où on fait beaucoup de loisirs. On a été visiter l'abbaye de Royaumont, on a participé aux journées de patrimoine de Pays de Moulins, qui est parrainée par Carole Gessler, la présentatrice des Racines et des Ailes.
Qui est
Absolument. Et autrefois parrainé par Jean-Pierre Pernaut, c'est lui qui avait vraiment
qui avait mis
la lumière sur
l'étrier,
absolument.
Jérémy, excusez-moi, ça veut dire que les gens vivent sur place.
Donc, ils vivent sur place ensemble, dans un logement. Alors souvent c'est la mairie qui nous prête une salle. Et l'année dernière, pour des raisons de calendrier, on était dans un logement privé. Mais c'est
parce qu'il y avait les Jeux Olympiques.
Il y avait les Jeux Olympiques qui ont un peu décalé les choses, mais finalement ça s'est très bien passé. Et c'est un chantier à la fois de valorisation du patrimoine et d'éducation populaire. C'est-à-dire que nous faisons en sorte que nous ne transmettons pas seulement des savoir-faire, mais aussi des savoir-être. Il s'agit de former à la fois des amoureux et des amoureuses du patrimoine, mais aussi des citoyens qui peuvent sensibiliser les gens à toutes ces questions patrimoniales et environnementales. Ça me permet de vous parler un peu de Rempart, puisque en fait, le Cercle Beaumontois du Patrimoine est une association locale qui fait partie d'un groupement régional qui lui-même fait partie d'une union nationale. C'est un peu comme la CCI, c'est-à-dire qu'il y a la CCI France et nous on a l'Union Rempart nationale qui est même internationale puisque nous avons des chantiers partout dans le monde, au Mexique, en Chine, en Tunisie, en Italie, en Allemagne, en Croatie, et j'en oublie sûrement. Et nous avons aussi des chantiers dans les Outre-mer, puisque nous avons de magnifiques chantiers en Martinique, un à La Réunion, il me semble, et ce sont des chantiers qui sont assez formidables à vivre. Ça permet de voyager, ça permet aussi de se rencontrer, puisque ce sont des chantiers souvent...
D'échanger les techniques
exactement,
aussi.
Exactement, où il y a de la mixité sociale, et on apprend, quand on va en Martinique par exemple, c'est pas la même manière de faire de la maçonnerie qu'ici, parce que c'est pas les mêmes matériaux, et c'est assez intéressant. Alors j'en parlerai tout à l'heure, mais justement, nous, à Rempart Île-de-France, on se propose de faire une formation en Martinique. Je vous en parlerai juste après.
Oui, très bien. Vous allez avoir des candidats.
Oui,
on est tous partants.
Donc, pour vous expliquer comment ça fonctionne, Rempart donc, est une union nationale. Je suis le vice-président de Rempart Île-de-France, donc de la section régionale, avec ma présidente Martine Piechazik. Et puis, nous avons une équipe de 4 salariés exceptionnels, dont la déléguée régionale, Lucille Michel, Lucille Chaponi, puisque maintenant elle s'est mariée, elle s'appelle Lucille Chaponi, et Lucille fait un travail extraordinaire. Donc nous on est des bénévoles, entièrement, le conseil d'administration est entièrement bénévole, et on se repose sur une équipe de salariés très compétente qui nous permet d'agir au plus près des associations locales, puisque nous avons en Île-de-France 25 associations locales, 3 dans le Val d'Oise, le Cercle Beaumontois du Patrimoine, l'association de Villiers-Adam, Mémoire d'Avenir, qui restaure un lavoir et qui le fait vivre, et l'association de Magny-en-Vexin, avec son président qui est notre ami Claude Gobet, qui anime de manière formidable son association à Magny, où il restaure un ancien hôtel particulier qui s'appelle l'hôtel de Brière. Et cette année, leur chantier se concentrera sur un lavoir, pas un lavoir du tout, sur une fontaine, une fontaine qui est à côté de l'église de Magny. Et ce sera un chantier pour les jeunes, puisqu'on a plusieurs types de chantiers. On a les chantiers adultes à partir de 18 ans. Et puis pour ceux qui ont moins de 18 ans, eh bien il y a des chantiers ados où on peut travailler dessus. Et ça leur permet aussi de valider des compétences.
Bien sûr.
Voilà, ça c'est ce qu'on fait un peu en Île-de-France. Et puis l'idée de Rempart, c'est... Rempart, c'est une association qui est née il y a 60 ans de la volonté de différentes associations qui se sont unies ensemble pour être plus fortes autour de cette idée forte qui est que le patrimoine doit être l'affaire de toutes et tous. Ce n'est pas seulement l'affaire de connaisseurs, de spécialistes. Le patrimoine, c'est pas seulement le grand patrimoine, c'est tout le patrimoine. C'est le patrimoine rural, c'est le patrimoine industriel, c'est le patrimoine commercial. C'est ce qui fait la vie et le quotidien des gens. C'est ce qui fait aussi que on est heureux de vivre dans ce monde et connecté aux autres.
De préserver ce patrimoine. Je voulais vous poser la question, quelle est l'influence, comment fonctionnez-vous avec la Fondation du Patrimoine?
Alors la Fondation du Patrimoine, c'est un de nos partenaires. Sur plusieurs sites, ils nous aident à faire des assemblages financiers pour financer des travaux. Ça a été le cas au château de Marcoussis, où la Fondation du Patrimoine a agi pour nous aider à travailler sur la restauration de la tour Henri IV, qui est maintenant terminée. Donc ça été un beau chantier. Si vous voulez aller visiter le château de Marcoussis, je vous invite grandement à le faire. Et la Fondation du patrimoine nous permet aussi, par exemple, d'avoir le soutien de la mission Stéphane Bern,
oui,
qui a soutenu plusieurs monuments, notamment en Île-de-France, qui font partie de l'Union Rempart. Donc il y a eu Marcoussis, et puis il y a eu aussi à Châteaubleau, donc en Seine-et-Marne, si je ne me trompe pas, l'amphithéâtre qui se trouve à Châteaubleau, l'amphithéâtre romain, antique, et qui est restauré par l'association qui s'appelle la Riobé. Et le slogan de Rempart, c'est « Faire du patrimoine un lien qui nous unit ». Et parce que le nom Rempart peut faire un peu peur. C'est un mur, mais nous ne sommes pas des murs. Nous ne fabriquons des murs, nous restaurons des murs, mais ce n'est pas pour séparer les gens, c'est plutôt pour les unir, les réunir autour de l'idée de patrimoine, de l'idée de transmission et l'idée de bonheur à travailler ensemble.
Avec peut-être aussi l'idée d'être protégé en même temps avec les remparts.
Oui, bien sûr, mais nous, c'est plus l'idée d'ouverture, c'est-à-dire
sur l'extérieur.
Exactement, ouais. C'est ouvert à tout le monde, y compris pour les personnes en situation de handicap, parce que parfois les gens se disent, voilà, je suis en fauteuil roulant, je me sens pas capable d'aller sur vos chantiers, parce que c'est vrai que les monuments sont pas du tout adapté pour les personnes à mobilité réduite, mais on leur dit si, vous avez votre place, vous pouvez travailler sur le chantier, vous ne ferez pas la même chose que tous les autres, mais vous allez aussi
vous
être utile.
Une action, ouais.
Et dire à tout le monde que toute personne qu'elle est utile, qu'elle est capable, c'est aussi leur redonner confiance. Et le patrimoine pour nous, au Cercle Beaumontois du patrimoine, notamment à Beaumont, c'est une manière de redonner confiance aux citoyens, leur dire votre territoire ne vaut pas rien, votre territoire a beaucoup de choses à offrir et vous avez une histoire, même si vous venez pas du coin, même si vous n'êtes pas du Val d'Oise ou pas de Beaumont, même si vous venez de très loin d'un autre pays ou d'une autre région, d'une autre origine, vous pouvez vous emparer de ce patrimoine et en faire une manière de vous épanouir, de découvrir des métiers, de découvrir des perspectives et d'en parler autour de vous. Donc c'est ça l'idée.
Oui, c'est un très très beau projet. Jérémy, j'ai reçu une association, moi, qui est MSF, et sa présidente, sa directrice, Mariam Baraka, est en lien aussi avec Rempart.
Oui, alors ça, je ne savais pas.
Vous ne saviez pas? Bah si, elle a réussi à, je crois, à Louvre. Elles ont chantier.
Ah oui, donc vous parlez de ce MSF-là.
Oui,
parce que moi, je pensais à Médecins Sans Frontières.
Non, c'est Maison Santé Femmes.
Exactement.
Et donc, oui.
Bah, si vous voulez, je peux vous en dire un mot.
Ah bah oui, volontiers.
Alors, dans le Val-d'Oise, on a effectivement trois associations, je vous les ai citées, qui font des chantiers de bénévoles. Et puis, on a également un partenariat avec le musée Arkéa de Louvre, qui a un chantier à Orville, un chantier d'archéologie, et qui accueille cette association Maison Santé Femmes, qui est un chantier d'insertion pour des femmes qui ont des parcours souvent complexes, des parcours d'exclusion. Et nous, on essaye de leur montrer, avec MSF, qui fait déjà un travail magnifique et énorme, MSF a travaillé avec nous pour offrir une possibilité à ces femmes d'agir matériellement et concrètement sur un projet technique, qui est de la restauration de petits bouts du chantier d'Orville. Et ces femmes qui souvent ont des parcours très difficiles, aussi c'est pour nous une manière de leur redonner confiance en me disant « mais vous pouvez faire de la maçonnerie, vous pouvez faire de la taille de pierre, vous pouvez valoriser un monument, et en valorisant le monument, vous vous valorisez vous-même ». Et c'est toute l'idée du chantier de bénévoles, et que l'on fait notamment nous à Beaumont avec l'association Image qu'on a fait pendant 2 ans, Image 95, c'est l'idée que ces jeunes qui se disent oh, le patrimoine c'est pas pour moi, le patrimoine c'est pas notre truc, et ben quand ils y rentrent, quand ils arrivent, ils sont pas du tout convaincus, mais au bout d'une semaine ils sont ravis.
Ils ont vraiment trouvé leur voie.
Exactement, ouais. Enfin leur voie, je suis pas sûr.
Oui, mais en tout cas,
mais par contre,
moment,
ils ont passé un bon moment,
ouais.
Et ils ont été heureux de participer à un projet qu'ils peuvent voir évoluer dans le temps. Et ils se disent, ah mais le château, finalement, ça vaut le coup. Parce que quand ils arrivent, ils veulent le raser.
Oui,
ils disent, mais pourquoi on ne fait pas un centre commercial à la place du château? et on leur dit, mais vous savez, il y a d'autres perspectives dans la vie qu'un centre commercial ici. Et ça peut être tout aussi utile, et ça peut être aussi positif pour le commerce local. Puisque créer un site d'attractivité touristique, c'est créer du passage, c'est créer une activité économique autour. Et nous, au Sac-Beaumontois du patrimoine, avec notre présidente Marie-Camille Svetovidov et notre vice-président, l'ancien maire de Beaumont, Fabrice Milleraud, l'idée était vraiment de faire de Beaumont un lieu qui profite de ses richesses patrimoniales pour réactiver un peu son dynamisme. Parce que Beaumont a été une ville très dynamique il y a encore pas si longtemps et elle a connu beaucoup de difficultés liées à la conjoncture, à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on essaie de relancer par le patrimoine notamment, pas seulement. Hein. Le maire actuel fait beaucoup de travail.
Et très investi, hein, Jean-Michel Aparicio.
Absolument, il est très investi et fait beaucoup de travail notamment pour le sport à Beaumont, pour l'image de Beaumont. Donc il y a du travail qui est fait. C'est pas facile, c'est difficile je pense, d'être maire d'une commune comme Beaumont. Et vraiment, on le félicite parce que nous, on a vu des choses évoluer quand même en 5 ans.
Oui, vous avez vu, c'est plus du tout le même intérêt.
Clairement, l'intérêt a changé. Après, il y a toujours les obstacles qui ne dépendent pas forcément du maire. Et des obstacles qui peuvent être des obstacles financiers, qui peuvent être des obstacles techniques. Notamment, au château de Beaumont, on a besoin d'une étude. Bon, l'étude, c'est pas facile à faire. Une étude préalable avec une architecte du patrimoine, c'est long. Il y a beaucoup de dossiers administratifs à remplir. C'est très difficile. Donc, nous, on soutient. Et on soutient la valorisation du patrimoine de toutes les manières possibles. Et on se forme aussi.
Bien
et
sûr, c'est un cercle vertueux, hein, gagnant-gagnant. Ouais.
Et je voulais vous parler de quelque chose qui était assez nouveau pour nous à Rempart Île-de-France. C'est un cycle de formation que nous inaugurons, puisque c'est bien beau d'avoir des slogans « Faire du patrimoine le lien qui nous unit », mais comment on fait pour que ça fonctionne? Eh bien, il faut se former, parce que pour agir sur du patrimoine, il faut bien le connaître. Et pour bien le connaître, et pour bien connaître les techniques de restauration, il faut se former avec des professionnels. Donc nous, on a reçu l'agrément Calliope récemment, l'année dernière, grâce au très bon travail d'Angéline Martin et d'Anaïs Espérine, qui travaillent au groupement Rempart Île-de-France, qui ont fait un super boulot, et qui ont réussi à décrocher cet agrément Calliope, et nous sommes maintenant en mesure d'offrir un catalogue de formation aux professionnels, qu'ils soient des professionnels du patrimoine ou d'autres secteurs. C'est tout à fait ouvert. L'idée, c'est de vous former à certaines problématiques actuelles qui se posent dans le bâti ancien et qui peuvent être utiles à tous et à toutes. Alors, la prochaine formation, je vous le dis tout de suite, c'est très bientôt, c'est à la fin du mois d'avril. Donc, c'est le 28 et 29 avril à Chelles, à la Villa Max, un autre site de chantier de bénévoles. Et cette formation s'appelle le Sable en perspective. Donc, c'est une formation qui vise à informer les professionnels du bâtiment sur quels sont les usages du sable. Quels sont les usages du sable? Ça va du mortier de chaux, puisque dans le mortier de chaux, vous avez du sable, de la chaux et de l'eau, mais ça va aussi jusqu'au béton. Et avec des professionnels du bâti, on explique comment ce sable peut être réfléchi, quelles sont les qualités et les désavantages du sable, et en quoi il peut être utile pour la réhabilitation du bâti ancien, pas seulement monument historique, mais aussi de votre maison, soit votre maison de campagne, ou même une maison de centre-ville.
Oui, ça ouvre des perspectives plus larges.
Oui, absolument. Et c'est une formation qui vaut tout à fait le coup. Donc, j'invite vraiment les gens à s'informer, à aller sur le site Rempart Île-de-France, qui s'appelle le site du GRIF, et vous y trouverez beaucoup d'informations, vous aurez le catalogue des formations, à contacter le groupement Rempart Île-de-France, Angéline Martin notamment, qui pourra vous renseigner. Et à propos des formations, donc on a tout un catalogue jusqu'au mois de novembre qui propose des formations, et à propos des financements, il ne faut pas vous inquiéter, puisque le financement...
C'est la question que j'allais vous poser.
Est assuré. Donc, je vous l'ai dit, on est certifié Calliope, donc déjà, vous pouvez y aller tranquillement, on vous accueillera correctement. Mais pour les formations, il y a les fonds mutualisés d'opérateurs de compétences. Donc, ce sont les chefs d'entreprise qui peuvent vous financer avec l'OPCO, votre formation.
Dans la mesure où vous êtes Calliope, OPCO qu'on fonctionne.
Exactement. Ouais, donc l'OPCO fonctionne et faut pas hésiter parce que il y a des fonds qui sont prévus pour vous former et utilisez-les si vous avez envie d'en savoir plus sur ces problématiques qui sont parfois des problématiques un peu ignorées. Je prends l'exemple de ce qui va se passer à Beaumont les 5 et 6 juin 2025. C'est la formation qui s'appelle Jardiner le patrimoine. Donc là, ça nous tient à cœur parce qu'à Beaumont, on a envie de devenir un peu un centre de référence sur la question lien patrimoine et environnement, patrimoine bâti et végétal. Et l'idée, c'est de réfléchir à comment intervenir sur un bâtiment parfois dégradé par la végétation, mais comment intervenir sans détruire le vivant. Comment intégrer le vivant à nos principes de restauration. C'est à la fois un engagement écologique, puisque aujourd'hui, face au changement climatique et face aux extinctions de masse de la biodiversité, les pratiques du bâtiment sont des pratiques très consommatrices en eau, très consommatrices en énergie. Et il faut qu'on réfléchisse, y compris dans le patrimoine, à faire en sorte que ces bâtiments, ces monuments historiques, soient aussi des alliés de l'environnement et pas des obstacles. Je prends l'exemple d'une restauration d'un mur médiéval. Si vous restaurez tous les joints parfaitement, vous aurez un magnifique mur, mais vous allez perdre toute la biodiversité qu'il y a dans ces murs, notamment les lézards, les chauves-souris, les insectes qui vivent dedans, les araignées. Et toute cette biodiversité, si vous la perdez notamment en milieu urbain, vous ne la retrouverez plus parce qu'ils n'auront pas le lieu d'endroit où se réfugier.
Ils n'ont pas le temps de se reproduire en fait.
Exactement. Et vous allez favoriser la reproduction d'autres espèces qui sont moins désirables, qui peuvent être là. Donc ça peut être des espèces parasitaires ou des types de champignons sur les végétaux qui, du fait qu'il n'ait plus de prédateurs, prospèrent. Je prends l'exemple tout simple dans nos jardins. Si vous avez beaucoup de pucerons, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de coccinelles dans votre jardin. Si vous avez beaucoup de moustiques, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de chauves-souris. Pas besoin de mettre des insecticides. Les chauves-souris mangent des milliers de moustiques à la minute. Donc c'est assez formidable de favoriser
cette biodiversité. Cet équilibre.
Exactement.
En fait, ouais.
Et c'est une idée plus globale. C'est une idée de la société, d'une société
en général,
qui vit en harmonie avec l'ensemble de ses composantes. Donc c'est une idée aussi humaniste qui est vraiment l'idée de Rempart, puisque nous ne voyons pas le patrimoine comme une forteresse identitaire ou une nostalgie du passé. Nous voyons le patrimoine comme un héritage qu'il faut faire prospérer et qu'il faut utiliser pour nous inspirer. Et souvent, quand on regarde les méthodes de bâti traditionnelles, je pense notamment aux caves anciennes, on a souvent en Île-de-France, je pense à Pontoise, je pense à Provins, je pense à d'autres villes qui sont construites sur des collines, on a souvent ce problème de caves souterraines, de caves qui posent des problèmes de fontis, qui posent des problèmes pour le bâtiment. Eh bien, ces caves, elles sont là depuis 800 ans. Comment ça se fait qu'elles soient toujours là? Alors qu'on construit des bâtiments...
Elles n'ont pas été,
Alors, on construit des bâtiments aujourd'hui qui, on ne sait pas s'ils vont durer 800 ans.
C'est clair.
Voilà.
C'est clair. Écoutez, en tout cas, vous en parlez formidablement bien, hein, Pierre. Vous avez un beau VRP encore aussi.
Exactement.
Pour
je vous disais tout à l'heure que le Val-d'Oise avait plein d'atouts.
Ah oui.
Voilà un supplémentaire que je ne connais pas. Hein.
Oui. Donc,
si je peux rajouter quelque chose,
bien sûr, Jérémy.
Je vous donne les autres dates de formation.
Allez-y.
Donc, je vous ai dit 5-6 juin, c'est Jardiner le patrimoine à Beaumont. Vraiment, je vous invite grandement à venir. Vous avez aussi, j'en parlais sur les caves, le 19 et le 20 juin, les carrières. Donc, une formation sur les carrières pour les gens qui travaillent, notamment les professionnels du bâti, qui travaillent sur des villes qui ont ces problèmes de gruyère, en fait, qui sont en sous-sol. Et pour s'informer, il faut aller à la formation carrière à Châtillon, dans le sud de Paris. Et nous avons également la formation le 24 et le 30 novembre. Du 24 au 30 novembre, c'est sur la maçonnerie du bâti ancien. Donc ça concerne toutes les entreprises du BTP qui voudraient intervenir sur du bâti ancien, mais qui n'ont pas forcément les connaissances pour le faire et qui peuvent venir se former. Alors peut-être pas, ils vont pas peut-être prendre des grands chantiers monuments historiques, mais s'ils interviennent sur du bâti individuel, ça peut être une maison en centre-ville, eh bien ils peuvent se proposer leurs services et ils auront appris comment intervenir, par exemple en ne mettant pas de joint ciment sur la pierre, puisque le joint ciment, c'est s'assurer des problèmes dans 10 ans.
Bien sûr.
Et il y a plein de choses comme ça. Et puis je terminerai peut-être par dire que notre chantier à Beaumont de 2025, il doit être normalement 21 juillet 1er août, mais je vous garantis pas parce que on cherche des encadrants techniques, notamment en archéologie du bâti. Donc regardez le site Rempart et vous verrez les dates.
Tous les renseignements.
Et enfin, j'annonce quand même quelque chose de très important. C'est la fête médiévale à Beaumont-sur-Oise, 24 et 25 mai. Si vous voulez venir découvrir le château de Beaumont, toutes ses richesses, avec tout un tas d'animations, notamment de la Compagnie des routiers, qui est l'association qui organise cette fête avec la ville de Beaumont-sur-Oise, eh bien venez, vous allez passer un bon moment autour du thème Orient et Occident, puisque le thème l'Orient et l'Occident, c'est pas que des conflits, c'est aussi des échanges culturels et scientifiques, c'est des moments magnifiques d'humanité que l'on peut partager sur l'histoire médiévale, et je ferai une conférence le 23 mais à 20h à la Maison des Associations sur les notions de Moyen-Âge, d'Orient et d'Occident.
Très bien. Jérémy, une question. Vous attendez combien de personnes sur chacun de ces chantiers ? C'est ouvert à combien de personnes ?
Pour les formations, c'est les groupes de 10 environ.
De 10, d'accord.
On dépasse rarement les 10 personnes puisque c'est des formations très ciblées pour les professionnels. On n'attend pas un nombre colossal. Par contre, on aimerait bien remplir 10 à chaque fois.
Bien sûr.
Parce que c'est tout un modèle économique aussi,
oui,
puisque ces formations sont payantes, mais donc je vous l'ai dit, financées par des dispositifs.
L'organisme.
Voilà, donc l'OPCO. Et puis si vous avez des questions, même si vous êtes par exemple en recherche d'emploi, France Travail peut prendre en charge aussi ces formations. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers votre conseiller ou vers le groupement Paris de France. Il existe des solutions de financement. N'ayez pas peur du prix. C'est autour de, je crois que entre 400 et 500 euros pour les formations. Et c'est souvent 2 jours de formation, donc c'est 16 heures de formation. Et n'ayez pas peur, allez-y, il existe des solutions. Et on est une dizaine à chaque fois, j'espère.
Vous en faites partie, bien évidemment.
Alors pas à toutes, mais celle de Beaumont, j'espère être là.
Merci infiniment. Jérémy David, bravo vraiment pour aussi votre enthousiasme. Je retrouve la même énergie, enthousiasme qu'avec Pierre. Donc bravo infiniment pour cette valorisation du patrimoine.
Et j'espère que justement la CCI pourra nous envoyer du monde sur cette formation, parce qu'il y a sûrement des entreprises qui peuvent être intéressées.
Il faut m'envoyer des informations et on les fera suivre dans nos réseaux et dans notre newsletter
avec grand
plaisir. Ce que je me suis demandé, c'est si les coûts de formation, ils pouvaient être pris sur le compte formation.
Alors non, justement, ça c'est, d'accord, je dois bien le dire, sur le CPF, ça ne fonctionne pas.
D'accord.
C'est les
fonds mutualisés
dont vous avez parlé.
Voilà, c'est les fonds mutualisés.
Très bien.
En tout cas, voilà, il faut me faire passer les informations et en plus de IDFM Radio, on sera un plaisir.
On va relayer
tout ce qui fait le Made in 95 est le bienvenu.
Complètement. Francky, je propose qu'on fasse là une courte pause.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, patrimoine et transition écologique, c'est toujours l'économie sur IDFM Radio et je suis toujours en compagnie de Pierre Kuchli, Jérémy David, Oudavon Sureau, Pierre, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, et Jérémy, secrétaire du Cercle Beaumontois du patrimoine et vice-président du groupement Rempart dont il nous a parlé longuement tout de suite. Oudavon, fondatrice et gérante de GoFusion, pour le produit GoFusion. Alors Oudavon, on n'a pas beaucoup de temps pour vous laisser parler, mais vous reviendrez s'il le faut. Quelques mots de présentation sur vous-même et sur ce produit GoFusion.
Oui, bien sûr. Merci en tout cas pour l'invitation. C'est un vrai plaisir en plus d'être entourée d'invités qui, je pense, pourraient avoir un rôle essentiel dans GoFusion. Donc rapidement, donc je suis Oudavon Sureau, donc fondatrice de GoFusion. J'ai créé GoFusion il y a à peu près un an. Et GoFusion est une application qui récompense les citoyens pour leurs actions environnementales et sociétales. Donc concrètement, le citoyen, donc j'ai deux modèles économiques, un côté collectivité et un autre côté entreprise, mais peut-être qu'on va plus se focaliser sur le côté citoyen, mais c'est à peu près la même chose pour les entreprises. Mais étant donné que je suis entourée de Pierre et de Jérémy, je pense que le côté citoyen parlera un peu plus aux éditeurs. Donc concrètement, le citoyen peut jouer, gagner des points, Et en fonction de sa position dans le classement, il gagne de l'argent qu'il peut dépenser localement. Et quand on parle de localement, c'est chez les commerçants du territoire. Ça peut être aussi dans les monuments, aller visiter par exemple le château de Beaumont. Donc l'idée, c'est qu'on amène les citoyens à jouer de façon ludique sur...
Et responsable.
Exactement, exactement. Sur des actions environnementales et sociétales. Ça peut être des actions comme ramasser les déchets, ça peut être aussi utiliser des vélos électriques, ça peut être aussi remplir un composteur. L'idée, c'est de récupérer la stratégie RSE de la collectivité, donc qui ne s'appelle pas RSE, qui s'appelle le PCAET, donc Plan Énergie du Territoire. Et donc l'idée, il y a une IA à l'intérieur qui récupère toute cette stratégie. On demande aussi aux citoyens de faire son bilan carbone. Une fois qu'on a toutes ces données-là, l'IA récupère et transforme ça en défi. Donc, hyper vertueux. Le citoyen joue, gagne de l'argent et en même temps, les entreprises du territoire, mais aussi le patrimoine du territoire, peut créer et sponsoriser des défis pour mettre en avant leurs activités. Jérémy nous en a parlé tout à l'heure. Moi, je buvais les paroles de Jérémy et également de Pierre. On parlait de bénévoles, on parlait de maisons santé pour les femmes, de relancer le patrimoine, des formations aussi. Eh bien, tout ça, l'idée, c'est de récupérer ça et de le rendre visible pour que le citoyen puisse en avoir connaissance et en même temps être acteur du changement.
Alors, je vous entends, Oudavon, et c'est passionnant, c'est captivant. Comment, déjà, par exemple, vous parliez de composteur. Donnez-moi un exemple concret.
Oui, bien sûr. Eh bien,
imaginez... Moi, je vais remplir mon composteur.
Super.
Qu'est-ce qui se passe?
Effectivement, soit vous avez un composteur chez vous, parce que vous avez beaucoup de chance, vous avez un jardin et vous avez la possibilité d'en mettre un. Déjà, si vous n'en avez pas, on peut vous mettre un défi d'aller acheter un composteur. Et en même temps, il y a certaines villes où ils mettent à disposition un bon d'achat pour acheter un composteur. Et donc, du coup, on pousse cette information-là. Le citoyen, peut-être qu'il ne sait pas qu'il peut avoir 50 euros pour l'achat d'un composteur, où est-ce qu'il peut l'acheter. Et en même temps, on lui pousse un tuto de comment utiliser un composteur pour lever un peu tous les freins. Parce que souvent, on se dit, bah non, il va y avoir des insectes. Non, ça va prendre la place. Je ne sais pas comment l'utiliser. Donc, en fait, on pousse de l'information, on sensibilise et en même temps, on donne les outils pour que le citoyen puisse acheter son composteur. Ça, c'est quand on a une maison et qu'on peut avoir un composteur. Quand on est on n'en veut pas, ou alors quand on habite dans un immeuble, eh bien, la ville a mis plusieurs... Alors moi, je suis de Soisy, donc Soisy sous Montmorency, et la ville a mis à disposition plusieurs composteurs, notamment proches. Exactement. Donc on peut y aller. Moi, concrètement, j'y vais. Quand je dépose mes enfants, j'emmène ma petite poubelle de déchets alimentaires et je le mets à l'intérieur. Et concrètement, pour répondre à votre question, Jacqueline, on est géolocalisé à côté d'un composteur. On nous dit, allez, tu peux aller mettre tes déchets alimentaires. On prend une photo. L'IA détecte que le descriptif du défi et la photo est bien en cohérence.
Compatible, oui.
Exactement. Donc, on valide le défi et là, on gagne des points.
Et alors, qui finance ces points? Parce que c'est important.
Oui, exactement. Donc, comme je vous le disais, donc, j'ai deux modèles économiques. Un côté citoyen, donc en B2C. Et là, l'idée, c'est de le mettre à disposition soit du départemental, soit des villes. Là, on est présent dans une vingtaine de villes dans l'ouest de la France. On aimerait beaucoup arriver sur le Val d'Oise, puisque, effectivement, on habite dans le Val d'Oise. Et en plus de ça, voilà, Pierre nous parlait du Made in 95. C'est extraordinaire puisque en fait l'idée c'est d'utiliser toutes les entreprises du Made in 95, de le mettre dans l'application et donc du coup de rendre accessible l'information à tous les citoyens. Tout à l'heure Pierre parlait de d'un vélo, d'une chaîne. Donc je veux une chaîne. Peut-être qu'à Soisy il y a un artisan qui le fait.
Oui.
À Enghien il y en a un autre. Donc l'idée c'est de savoir et de quand on sait, après, on peut activer. Ça sera peut-être un tout petit peu plus cher, mais ça sera toujours vertueux.
C'est ça. Le même principe et le même combat que la CCI ou même que le Cercle Beaumontois du patrimoine. Donc, vos besoins aujourd'hui, oui. Au Davone, c'est important.
Oui. Alors, mes besoins, ils sont multiples. On est une start-up. Donc, effectivement, il faut se faire connaître. Donc, déjà, un grand, grand merci, Jacqueline, pour ça. Il faut qu'on se fasse connaître parce que on doit, l'idée, c'est de rendre accessible cet outil dans les territoires, d'être au plus proche des citoyens et au plus proche des besoins du territoire et aussi des entreprises. Donc, tout à l'heure, vous me posiez la question, comment on est financé? Il y a les collectivités et il y a aussi les entreprises. Donc, c'est hyper important aussi d'être présent dans les entreprises puisqu'elles ont une stratégie RSE. Et donc, là, c'est le même principe. On utilise la stratégie RSE de l'entreprise. L'IA transforme tout ça en défi. Et là, le gros avantage pour les entreprises, c'est qu'elles récupèrent la quantité de CO2 évitée par défi réalisé de chaque collaborateur pour diminuer son empreinte carbone. Donc, c'est ultra vertueux et c'est un peu une alternative à la compensation carbone. Au lieu d'aller acheter du carbone, eh bien, on capitalise sur nos collaborateurs. On les intègre, on les engage sur la stratégie en plus RSE. Et en plus, le collaborateur, il se sent un maillon hyper essentiel dans toute la chaîne de valeur pour baisser son empreinte carbone.
Formidable. On est bien conscient que la green tech ne pourra réussir que si tout l'écosystème est embarqué, l'État, les entreprises, les collectivités, mais surtout les citoyens et les collaborateurs. Vous l'avez bien dit.
Je pense que c'est ça qui est important, qui est intéressant, parce que souvent, toutes ces opérations-là sont souvent des contraintes pour le citoyen, l'employé, l'entrepreneur, etc. Et là, c'est un moyen ludique de faire de la RSE. Et je pense que c'est exactement ce dont on manque aujourd'hui en France. Tout ce qu'on nous demande de faire sur ces niveaux-là, on prend toujours ça pour des contraintes. Et on est toujours, enfin, le français, il est râleur, quoi. On dit toujours, les poubelles, faire le tri, le machin, le truc, ça nous embête. Là, il y a un moyen amusant de le faire. Oui. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Mmh. En tout cas, moi, à la CCI, on n'a pas d'argent, il faut le savoir. Juste tout à l'heure, j'ai dit, vous avez un souci, vous pouvez venir à la CCI, on peut tout faire pour vous. Pas tout à fait. Il n'y a qu'un truc, on n'a pas assez d'argent. Par contre, je vous l'ai dit, on a plein de bonnes idées. Et moi, je vais regarder comment on peut aider à faire la promotion de ce concept, de cette application, parce que je trouve ça extrêmement intéressant. En plus, c'est né dans le Val d'Oise. Donc, c'est à tout pour me plaire.
Voilà.
Puis je trouve que
Davone
est extrêmement, comme Jérémy, enfin, oui. Ça fait plaisir de voir des.
Bien sûr.
Là aussi, hein, souvent jeunes, on dit les jeunes, les machins. Davone, tout à l'heure, elle m'a dit non, mais je suis pas aussi jeune que j'en ai. Mais si, mais si. Par rapport à moi, moi, je suis jeune depuis beaucoup plus longtemps que vous deux. Donc, je sais de quoi je parle. Je veux dire, ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça qui sont motivés, qui ont envie. C'est une super idée, Davone, que tu as eu là. On va regarder comment on peut t'aider. Moi, je pense qu'il y a 83 500 entreprises dans le Val d'Oise. Elles ne sont pas encore, malheureusement, toutes labellisées Made in 95, mais on y travaille. En tout cas, voilà, on va tout faire pour t'aider à faire connaître ce truc-là. Ça me plaît beaucoup.
Bon, écoutez, bravo. Moi, je suis ravie de vous avoir. C'est un petit peu le hasard, mais je suis ravie de vous avoir, d'avoir fait que vous vous êtes rencontrés. On est obligé d'accélérer un petit peu parce que l'émission se termine. Davone, on va organiser un autre rendez-vous. Vous pourrez développer un peu plus parce que, voilà, je sais que vous avez été primé. Vous avez eu le Planone. Innovation Trophy, donc on parlera de tout ça, promis, on essaie de refaire un rendez-vous.
Voilà. Avec grand plaisir.
Donc voilà, l'émission se termine, on termine par ce petit mot de conclusion, on a encore quelques minutes devant nous. Jérémy, un mot de conclusion avant de nous quitter.
Oui, je voulais simplement rajouter que depuis 2025, le Cercle Beaumontois du patrimoine peut défiscaliser les dons. Donc, si vous souhaitez aider l'association pour notre chantier, notamment si vous souhaitez participer à ce chantier de valorisation du château et bientôt, je l'espère, de restauration du château et que vous êtes une entreprise, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez
bénéficier d'avantages fiscaux.
Voilà, exactement.
Oui, c'est important.
On est reconnu d'intérêt général. Donc, c'est une déduction, il me semble, entre 60 et 66%
c'est ça.
Du
66%,
don.
66%, oui.
Et donc, n'hésitez pas, parce que Peut-être que vous n'êtes pas une entreprise qui fait du patrimoine, mais que vous êtes une entreprise, par exemple, une boulangerie. Notre boulangerie à Beaumont est très aidante avec nous. Donc, si vous voulez participer de cette manière-là, c'est possible. Et j'ajouterai juste aussi une petite chose. Sachez que nous faisons un salon du livre le 24 novembre prochain. Et que si vous voulez y participer, eh bien, envoyez-nous un mail et on vous enverra le formulaire.
Mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense, du salon du livre.
Oui, ce monsieur Milroe va certainement revenir.
Certainement.
Et dernier petit mot pour conclure, c'est que là encore, on en a parlé, c'est la synergie des différents acteurs qui vont faire en sorte qu'on peut bouger, on peut changer les choses. Et nous, à Rempart, on a l'idée qu'avec le patrimoine, on peut aussi agir sur la transformation de la société. Et on ne peut pas le faire sans les entreprises, on ne peut pas le faire sans le tissu économique. Et ce qui profite au patrimoine profite en fait à tout le monde.
À tout le monde.
Puisque si vous avez une ville avec un beau patrimoine, vous avez une ville avec un meilleur cadre de vie. Si vous avez une ville avec un meilleur cadre de vie, les gens ont plus envie d'y acheter, ont plus envie d'y consommer. Et aussi, ont plus envie, tout simplement, de s'y balader et auront moins de raisons de se sentir mal là où ils vivent. Et on est convaincu qu'on peut aider les gens aussi à avoir un peu plus de joie et de sourire grâce au patrimoine.
Pour le bien vivre. En tout cas, je vous trouve très, très complémentaires tous les trois ce matin. Merci infiniment, David, et pour vos actions. Jérémy, pardon. Jérémy, merci Pierre. Jérémy,
pour le 19.
C'est ça. Pour votre enthousiasme et puis toute votre énergie. Merci infiniment. Oudavon, un mot de conclusion avant de quitter.
Tout simplement, vous remercier, puisqu'effectivement, plus on en parle, plus les citoyens pourront agir. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de rendre l'écologie désirable. Pierre en parlait tout à l'heure sur le fait que quand on parle d'écologie, ça a toujours une connotation un peu chiante, disons-le, et nous on veut changer justement ce discours un peu anxiogène et être ultra positif, y aller vraiment tous ensemble. Et comme vous le disiez, Jacqueline, c'est transformer ce triangle de l'inaction en cercle vertueux de l'action où il y a entreprise, collectivités et citoyens et associations, bien évidemment, pour travailler dans un même but. Et notre objectif, c'est vraiment de travailler tous ensemble, de mettre en lumière toutes les actions qui sont faites pour avoir un bien vivre. Et du coup, je rejoins beaucoup Jérémy sur ce point-là.
Merci beaucoup, Davon. Merci, vous en parlez très très bien. Pierre, le mot de la fin est pour
vous. J'ai dit tellement de choses que je ne sais plus trop quoi dire, mais effectivement, moi je suis très content d'avoir participé cette émission, partagé cette émission avec mes deux voisins de gauche. Je suis d'accord avec Jérémy lorsqu'il dit qu'effectivement, la défense du patrimoine, c'est quelque chose qui est important, et sans le monde économique, c'est difficile. Je pense que c'est aussi un moyen d'encourager les consommateurs du Val d'Oise à aller vers les commerçants, les entreprises du Val d'Oise, parce que ceci, plus leur business va marcher, plus ils vont aider de l'argent, plus ils pourront aider le patrimoine. En ce qui concerne la RSE et l'écologie, moi je trouve que c'est toujours bien lorsque on transforme une contrainte ou une loi ou une obligation ou une morale ou des indications en un truc ludique, amusant, etc. Et je trouve que franchement,
oui,
ce que
idée.
Tu fais, c'est super à ce niveau-là. Et donc vraiment, je suis content d'avoir partagé cette émission avec vous deux. C'est bien, ça prouve aussi que, contrairement à ce que disent certains râleurs, les jeunes en France, moi j'en rencontre tous les jours, je rencontre tous les jours des jeunes, des moins jeunes aussi, qui veulent créer leur boîte. Et il y a un bel avenir devant nous. Vous avez parlé, Jacqueline, tout à l'heure, de l'intelligence artificielle. Moi, je voudrais quand même rappeler qu'à l'heure où tout le monde se concentre sur l'intelligence artificielle, la bêtise naturelle quand même se développe à une vitesse grand V, et qu'il faut quand même lutter aussi contre ça. J'entendais ce matin à la radio du wokisme, enfin des trucs contre les vaccins, enfin des remises en cause systématiques de tout. Restons les pieds sur terre, restons groupés. Nous, Valdoisiens, travaillons tous ensemble pour faire progresser encore ce département qui, encore une fois, est un département extraordinaire, qui a énormément d'atouts. faisons-les briller. On en a deux avec nous ce matin. Il y en a plein. Il y en a 83 500 dans le Val d'Oise en ce qui concerne les entreprises. Il y en a plus si on compte les associations de défense du patrimoine et les autres. Donc vraiment, soyons fiers d'être valdoisiens. Moi, j'aurais vraiment terminé là-dessus. Arrêtons le... J'ai pas dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que souvent, lorsque j'étais en province, j'avais constaté que l'image du Val d'Oise avait progressé en dehors du Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, souvent, moi, j'entends encore parler, j'entends encore du Val d'Oise bashing. Mmh. Je trouve ça dommage. Mmh. Soyons fiers qu'on travaille dans le Val d'Oise, qu'on y habite, que ce soit les deux. Franchement, soyons fiers. C'est un super département. C'est la France en miniature, mais c'est la France en miniature avec ses qualités.
Merci Pierre pour votre engagement indéfectible hein, au service du Val d'Oise, on peut le dire. Donc merci et puis merci à Oudavon et Jérémy aussi pour vous avez à votre façon aussi cet engagement et bravo. Voilà, l'émission est terminée. Merci à chacune et à chacun d'avoir été les invités en direct hein, sur EDFM Radio. Merci à nos auditeurs d'être fidèles aussi à notre émission. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et retrouvez son podcast sur le site idfm98.fr. Et moi, je vous retrouve mardi prochain à 9h30 en compagnie de trois nouveaux invités, dont Michel Jonquer pour la sortie de son livre. À mardi, belle journée et bon week-end.
Livre très intéressant que j'ai lu. Michel a eu la gentillesse en plus de me le dédicacer. Donc,
moi aussi, j'ai trouvé que c'était passionnant.
C'est un livre passionnant, comme le personnage est un personnage passionnant aussi.
Et ben, je vous invite à écouter l'émission.
Je pensais qu'on revenait tous les trois la semaine prochaine.
Écoutez, on va essayer de trouver une nouvelle date. Merci Pierre, merci Oudavon, merci Jérémy.